Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 7 novembre 89.
Boire une sorte de goutte de lait pour ceux qui ont de la peine. Donc c'est en premier lieu pour la première année. Mais personne n'est exclu. Et c'est important de noter vos questions. Un petit cours spécial pour les sœurs demain aussi, pour qu'il puisse y avoir comme ça un progrès. Oui, j'invite pas les frères chez les sœurs, hein. J'invite les sœurs chez les frères, pas nécessairement, puisqu'elles auront leur coup de lait particulier. Alors voilà, question: pourriez-vous expliquer les trois connaissances que nous avons de l'âme? Elle est cause efficiente, cause formelle, cause finale. Comment découvrons-nous ces trois regards? Dans quel ordre? Nous découvrons, point de vue, première connaissance de l'âme, connaissance affective. Première, les traditions religieuses, puisque le mot âme vient des traditions religieuses, n'oubliez jamais ça, et de la tradition de l'Inde, n'oubliez jamais ça, tradition de l'Inde que Platon a reçue et qu'Aristote a reçue à la suite de Platon. Deuxièmement, connaissance affective de l'âme, expérience, l'intériorité. J'ai une âme qu'il faut sauver. Ça se chante. Connaissance affective de l'âme, connaissance intérieure de l'âme. L'intériorité. Je m'aime. J'ai un amour pour moi à cause de cette présence de l'âme. C'est comme une présence de l'âme. Troisièmement, connaissance philosophique de l'âme, découverte de ce principe, de cette source, par l'induction. Alors, l'induction porte sur quoi? L'induction porte sur la découverte de l'âme comme source radicale de toutes mes activités vitales. Efficiente. Dans la même ligne que la nature. La nature est découverte premièrement comme principe efficient de tous les mouvements naturels. Or, toutes mes opérations vitales sont des mouvements naturels. C'est pas artificiel. Quand je prends mon petit déjeuner le matin, c'est un mouvement naturel. J'assimile. C'est bon ou mauvais, ça n'a pas d'importance. J'assimile. Parce que bon ou mauvais, c'est déjà un peu l'esthétisme qui a introduit. C'est la mondanité qui s'est introduit. Je prends mon repas le matin parce qu'il faut quand même tenir durant la journée. Et de temps en temps, je jeûne pour bien montrer à Dieu qu'il domine la vie végétative. Ça, c'est le point de vue religieux. C'est l'éthique religieuse. Deuxièmement, je réfléchis sur ce principe de mes opérations vitales. Et je vois que cette opération vitale, que ce principe est principe radical. Et que l'âme est forme de mon corps, cause formelle, qu'elle informe mon corps. Ce n'est pas une nouvelle induction, mais c'est à l'intérieur de l'induction la réflexion que je fais sur ce principe radical qui implique à la fois l'âme et le corps dans toutes mes opérations végétatives. Dans toutes mes opérations de connaissance sensible. Dans toutes mes opérations affectives, passionnelles et de l'instinct. Et je m'aperçois que l'âme a aussi cette capacité de dépasser le corps. En présence de certaines opérations qui n'impliquent pas la coopération immédiate et formelle du corps, la pensée, la volonté. Et c'est grâce à ce dépassement que je dis que l'âme est cause finale. Et quand je dis que l'âme est acte et cause finale, j'insiste sur ce fait que l'âme a un certain dépassement par rapport au corps. Je ne dis pas qu'elle subsiste sans le corps, mais je me pose la question, jusqu'où va cette finalité? Est-ce que l'âme va subsister après la mort? Oui, ça c'est la causalité finale. Oui, bien ces trois aspects. Oui.
Mais est-ce qu'on ne sait pas la causalité finale simplement parce que l'âme est forme du corps?
Sans
regarder le dépassement?
Non, c'est le dépassement. Dans toutes vos opérations de vie végétative, vous ne pouvez pas découvrir que l'âme est fin. Dans vos opérations de connaissance sensible non plus. C'est vraiment à partir du dépassement. C'est l'âme spirituelle. Vous voyez? L'autre, la forme suffit. Oui, la forme est fin. Elle est fin parce que... Mais, de fait, je ne saisis l'aspect final, formellement, pleinement, que dans les opérations spirituelles. Oui.
On voit que l'homme est finalisé du point de vue des opérations spirituelles, mais est-ce qu'on peut dire pour autant que l'âme est fin du corps?
Ah oui, puisqu'il y a l'unité substantielle. Puisqu'il y a l'unité substantielle entre l'âme et le corps. Et si l'âme a un dépassement par rapport au corps, elle finalise. Elle est ce pourquoi il y a ce composé âme et corps.
Justement, je ne vois pas comment est-ce que l'aspect de l'immanence des opérations végétatives peuvent trouver une fin.
Parce qu'il y a l'unité substantielle. S'il n'y avait pas d'unité substantielle, on dirait tout simplement il y a une âme spirituelle séparée du corps. Mais parce qu'il y a une unité substantielle entre l'âme et le corps, cette unité substantielle dans l'ordre de l'être. Si l'âme est capable de poser une opération supérieure au corps, elle finalise le composé. Et donc, il faut le dépassement de l'âme par rapport au corps pour finaliser les opérations immanentes. Autrement, dans un animal, qu'est-ce qui finalise la vie végétative? Ce n'est pas... Qu'est-ce qui finalise l'animal? Ce n'est pas son âme. C'est la procréation. La procréation seule finalise l'animal. La génération, disons. L'animal est finalisé par la génération. Pourquoi? Parce que l'individu disparaît. Ce n'est pas l'individu qui finalise le vivant, c'est son opération de génération. C'est un autre individu. Le petit chien ou le gros chien est finalisé par le petit chien. Quand le gros chien engendre le petit chien, il doit dire au plan philosophique, tu me finalises. Parce que le petit chien va permettre la continuité de l'espèce. Donc vous voyez bien que la nature forme du chien ne finalise pas le chien. Donc l'âme ne finalise l'individu, et pour nous, disons, la personne, que parce qu'il y a des opérations spirituelles. Donc c'est bien l'âme spirituelle qui finalise. Or, cette âme spirituelle ne fait qu'un avec l'âme végétative, donc c'est toute l'âme qui finalise. Et le coup, oui. Oui.
Ça vient nécessairement par les opérations spirituelles, parce que si ces opérations spirituelles ne sont plus en acte, quelqu'un qui est par exemple dans le coma demeure toujours.
Ah, mais oui, c'est évident. C'est par l'opération spirituelle que je le dis. Je parle de la connaissance. L'âme substantiellement finalise, mais je l'atteins par. C'est le coup et le quad. Oui.
Mais vous allez me dire par la puissance spirituelle.
Non, parce que je ne connais la puissance spirituelle que par l'acte. Oui. Alors, dans ceux qui sont handicapés, je dis qu'ils sont des hommes. Et en fonction des autres, je dis que. Vous voyez, ils ont la même âme. Et c'est pas par eux. Il y aurait des handicapés, il n'y aurait pas de philosophie. Ça, c'est sûr. Je projette sur les handicapés ce que je connais par l'homme parfait. Mais c'est pas l'handicapé qui me révèle l'âme spirituelle. Et c'est pour ça que des quantités, vous voyez, regarde l'handicapé en soi. C'est ce que Jean Vanier me disait dans certains congrès auxquels il avait assisté. Et on voyait très bien que certains ne regardaient l'handicapé que comme handicapé, et non pas comme homme. Et alors, en tant qu'handicapé, l'handicapé est capable uniquement d'une opération. Et donc, il faut le finaliser dans cette opération. Alors que la théorie de Jean Vanier, c'était, il regardait handicapé en tant qu'homme, il fallait mettre handicapé dans un milieu familial. Tandis que les autres mettaient l'handicapé dans un camp de concentration d'handicapés. Oui.
Et à propos des handicapés, il y a quand même des expressions tout à fait spirituelles du corps, même chez des gens qui sont les plus dénués de...
Mais tout à fait. Mais oui, mais faites attention, ce n'est pas la connaissance de l'handicapé comme handicapé. Il n'y a que des signes. Oui.
On a l'impression que Aristote, il passe directement de la notion d'âme comme forme à la notion d'âme comme acte.
Oui, tout à fait. Parce que.
Mais
parce qu'il ne précise pas. Mais je suis obligé de préciser aujourd'hui.
Est-ce que quand on saisit l'âme comme forme, on ne peut pas directement dire
non.
La forme actue d'un sujet.
La forme actue, mais ce n'est pas l'acte. Mais vous prenez le résultat. C'est autre chose de dire l'âme est acte. Parce qu'elle est substantiellement acte. Mais je peux dire que toute forme actue. Oui. L'âme du petit chien actue le petit chien. Ce n'est pas l'acte du petit chien. Oui. Ce n'est pas la fin. Il ne joue pas le rôle de finalité. Vous voyez, quand je dis que la forme actue, je vois le résultat. Mais je ne dis pas que c'est cause finale. Tandis que la causalité finale montre que ça finalise. Pour finaliser, il faut que l'âme puisse être au-delà de ce que représente la corruptibilité. Si l'âme était enfouie dans la corruptibilité, elle ne finaliserait pas. Oui.
Puisque l'induction nous mène à découvrir trois types de causalité, quelle est l'interrogation qui préside à l'induction? Est-ce que je m'interroge pour
Oui. Ben, sûrement. Je m'interroge pour savoir, est-ce que cette forme qui est l'âme par rapport au corps est vraiment l'acte de l'homme?
Mais avant même de savoir s'il y a une âme ou pas, au début, quand je découvre que dans la diversité de mes opérations, il y a une unité,
oui.
Est-ce que je vais m'interroger sur d'où vient cette unité ou pourquoi cette unité?
Il y a un ordre dans les interrogations. Pour atteindre le point de vue de la fin, je dois passer par la forme. Je ne peux pas découvrir tout de suite la finalité, sauf en éthique, par l'opération, mais pas au niveau substantiel. Oui. Je découvre un principe radical dans l'ordre de l'efficience. Ce principe radical dans l'ordre de l'efficience détermine substantiellement l'âme. Elle est forme du corps. Et cette forme du corps, elle est fin. Et pour pouvoir le dire explicitement, je me sers des opérations spirituelles. Il me semble. Vous posez la question, est-ce que dès le point de départ, ne pourrais-je pas découvrir l'âme comme fin de l'homme? Non, c'est pas ça.
Pas exactement, c'est ça.
Alors dites.
Quel est l'étonnement du point de départ? Et si je m'interroge du point de vue d'une interrogation sur la cause efficiente,
oui.
Ou si dès le point de départ, je peux dire, mon interrogation, en fait, c'est un pourquoi ou un qu'est-ce?
C'est la question de l'unité de toutes ces opérations diverses. Donc, dans la diversité, l'unité qui me permet de poser ce principe radical, efficient de toutes mes opérations. Parce que je pars de la diversité de ces opérations et de leur unité. Et ceci me fait poser une cause efficiente, radicale. Et ne me fait pas poser la cause formelle, tout de suite, ni la cause finale. C'est l'unité dans la diversité.
Cette unité, pourquoi cette unité?
Le tiesti commande aussi. Oui. Mais il n'est pas explicité. C'est qu'est-ce qui fait cette unité? Pourquoi, comment cette unité? D'où vient cette unité? D'où vient cette unité dans la diversité? Il y a une âme immanente. Et cette âme est cause formelle. Et cette âme est cause finale. C'est la raison pour laquelle Aristote met la recherche de l'âme dans la philosophie de la nature. Vous voyez ? Si Aristote avait découvert, si l'induction d'Aristote conduisait tout de suite à la cause formelle, il n'aurait pas mis l'âme et la recherche de l'âme dans la finalité, dans la philosophie de la nature. Il aurait mis du côté métaphysique. En métaphysique, c'est la forme qui est première. Or, le premier contact que j'ai avec les vivants, c'est que les vivants sont comme les réalités naturelles. Mais il y a quelque chose de plus en eux, l'immanence, qui me permet de voir que la cause efficiente est cause formelle, grâce à l'immanence.
Oui. Est-ce que par l'immanence, on ne peut pas découvrir, induire tout de suite l'âme comme cause formelle sans passer par la cause efficiente?
Je vois pas comment. Parce que votre immanence, vous la découvrez dans la diversité.
Elle coopère toutes ces immanences entre elles.
Ben oui, mais c'est la diversité. Il faut d'abord découvrir l'unité. Si vous prenez uniquement le point de vue de l'immanence, vous avez cette diversité dans l'immanence. Et cette diversité dans l'immanence ne me permet pas de poser une forme principe d'unité. La forme principe d'unité est au niveau de la cause efficiente. Et pas au niveau de la forme. Vous croyez qu'on peut? Moi, je ne vois pas. parce que je vois la diversité et l'unité dans cette diversité. Et l'unité dans cette diversité ne me permet pas de poser tout de suite dans l'immanence une forme substantielle. Il faut passer par l'unité de la cause efficiente.
Mais si on découvre que toutes ces immanences coopèrent entre elles en vue du vivant comme...
Mais comment découvrez-vous ça? Vous la découvrez par la cause efficiente. Si je me mets au point de vue descriptif, je vois la diversité. Et je ne vois pas l'unité. Vous allez me dire, il y a l'immanence partout. Oui, mais qu'est-ce qui fait cette immanence? C'est la cause efficiente. C'est pas la forme qui fait l'immanence. C'est l'efficacité, c'est la cause efficiente. Oui, puisque vous découvrez l'immanence dans l'opération, donc dans l'efficience. Ça peut paraître un peu subtil, mais je crois que c'est très important qu'on découvre en premier lieu l'âme comme cause efficiente, radicale de toutes mes opérations, et qui explique comment il y a une unité dans l'immanence. Il faut bien une source de cette immanence. Puis vous découvrez les degrés de vie. Et avant les degrés de vie, vous découvrez l'unité formelle de l'âme. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? C'est une question importante au point de vue méthodologique par rapport à la découverte de l'âme comme principe. Vous voyez, autant dans la connaissance expérimentale que j'ai de l'âme, dans cette connaissance expérimentale que j'ai de l'âme, je découvre tout de suite l'âme comme immanente, présente, intériorité. Mais c'est une connaissance affective. C'est pas un principe. C'est descriptif. Alors de ce côté-là, je suis d'accord de dire qu'il y a une unité que vous découvrez formelle, mais ce n'est pas la connaissance du principe. Pour découvrir le principe, il faut passer par l'efficience. Oui.
Mais est-ce que la définition d'Aristote de l'âme comme acte premier de la physique organique vaut pour des êtres vivants non spirituels? Parce que je suis en présence de semaine des passeaux.
Je dirais ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que l'acte, que la forme actue, pas plus. Elle ne finalise pas l'animal. L'âme n'est pas, l'animal n'est pas finalisé en lui-même. Pour ça, il faut une immanence parfaite. Or, chez l'animal, l'immanence n'est pas parfaite. C'est l'espèce qui finalise. Et l'espèce est finalisée, parce que l'espèce finalise, c'est par la génération qu'il y a ce renouveau de l'espèce. Oui, parce que l'immanence n'est pas parfaite. Il y a la mort. La mort détruit l'animal dans son être. C'est pas la néantisation, mais c'est parce que sa vie est détruite, et donc l'animal, comme être existant, n'existe plus. Il existe dans sa progéniture. Il se prolonge dans sa progéniture. Et c'est ça sa finalité. Ça vous gêne, ça? Oui, donc c'est pour ça que je n'oserais pas dire que l'âme de l'animal finalise l'animal. Non. L'actu, pas la même chose. Bon. chercher. C'est une question sur laquelle il faut tout le temps se poser, ça. Ce sont des questions très fondamentales par rapport à l'analyse de la vie. Pourriez-vous expliquer quel rôle joue l'avoir par rapport à la vie? Qu'est-ce l'avoir? N'est-il plus que seulement un accident? N'est-il pas quelque chose de propre au vivant humain? Oui. L'animal n'a pas d'avoir. C'est pour ça que l'habitus n'existe que pour l'homme, comme prédicament. L'animal n'a pas d'avoir parce qu'il n'a pas d'usage au sens propre. Et l'avoir, c'est dans l'usage. C'est l'usage qui fait mon avoir. Quand vous mettez un petit manteau sur un chien de luxe, vous ne dites pas, eh bien maintenant, mon cher, tu as un héritage, tu as un avoir. Le petit manteau qu'on met sur le chien de luxe n'est pas l'avoir du chien. C'est que vous montrez que ce chien est totalement domestiqué. Pauvre chien. Du fait qu'il devient un chien de luxe, il perd quelque chose de sa qualité de chien. Parce qu'il appartient à quelqu'un. Il devient l'esclave de quelqu'un. Et c'est la marque qu'il appartient à quelqu'un. Et qu'il est l'avoir de quelqu'un. Or, faire du chien un avoir, c'est le mettre dans une condition d'esclavage. Vous n'avez jamais vu un chien sauvage avec un petit manteau. Jamais. Première chose que fait le chien sauvage, c'est d'arracher son manteau. Vous demandez au copain de l'arracher. Il ne peut pas le supporter. C'est impossible, c'est insupportable. Ce petit manteau. Vous voyez, il n'a pas d'avoir. Seul l'homme a un avoir. Seul l'homme est propriétaire grâce à l'usage. C'est l'usage qui fonde la propriété. Un usage volontaire. Et le chien n'a pas d'usage volontaire. C'est dans ce sens-là que le singe n'use pas d'un outil. Même s'il fait des relations entre le bâton et la banane, quand il abat une banane avec son bâton, alors on dit, voyez, il use du bâton. Non, il imite. Il n'y a pas d'usage. Il imite. Vous n'avez jamais vu un singe inventer un geste propriétaire. Dès que le propre du propriétaire, c'est d'inventer une extension de son pouvoir. C'est l'extension de son pouvoir. Une extension libre. Alors il devient propriétaire. Vous n'avez jamais vu un singe aller dans la lune. L'homme le fait. Je ne sais pas comment regarde ça le singe quand il a vu les cosmonautes. Il a dû se demander est-ce que je pourrais être un cosmonaute. User d'un outil pour aller dans la Lune, c'est quand même un exploit. Dans les psaumes modernes, ça, c'est plus avoir 80 ans l'exploit, c'est d'aller dans la Lune. Et par là, la Lune chante les louanges de Dieu d'une autre manière. Parce que l'homme a pris possession de la Lune. Possession très froide. Parce qu'il ne peut pas l'utiliser comme il veut. Il peut très peu utiliser la Lune. Donc c'est un avoir du bout des doigts. C'est très important la question d'avoir. Être et avoir. C'est propre à l'homme. Et c'est la catégorie habitus, l'usage. C'est par l'usage qu'on acquiert un droit de propriété. C'est par l'usage qu'on a un avoir. Un usage volontaire. je continue. C'est toujours resté la vie végétative. La vie végétative a ses opérations. Nous l'avions vu un peu plus l'année dernière, donc ici je passe très rapidement. La respiration, la nutrition, le fait dans la nutrition de boire et de manger. Je possède l'oxygène en respirant. C'est pour ça que j'aime tellement de respirer. Et que c'est le signe du vivant. Quand il ne respire plus, vous ne dites pas il est mort parce qu'il ne mange plus. Il est mort parce qu'il ne respire plus. Donc c'est la frontière. Et la respiration est une assimilation. La nutrition est une assimilation. Vous avez un signe d'un degré de vie supérieur dans la connaissance. Connaissance sensible. Les sensibles propres et les sensibles communs. La connaissance est une assimilation intentionnelle. C'est encore une assimilation, mais intentionnelle, qui me montre la liberté plus grande que j'ai du monde physique. La connaissance me libère. Libération de la vie végétative, c'est la connaissance sensible. J'ai un horizon beaucoup plus grand. J'ai un horizon extraordinaire dans ma vie végétative. Tandis que dans ma vie végétative, j'ai un horizon très court. Puisque l'aliment, la respiration, je ne peux pas quitter cette atmosphère. Je suis obligé d'emporter mon atmosphère avec moi quand je vais dans la lune. Tandis que je vois la lune, je vois les étoiles, la vision me libère d'une façon étonnante du côté limite de ma vie végétative, de l'atmosphère. Je dépasse l'atmosphère. C'est assez extraordinaire ça, par les points de vue de la connaissance sensible. Donc j'ai une libération de l'aspect physique par le point de vue de ma vie sensible. Et c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est la libération du monde physique, du toucher. Parce que la vie végétative implique le toucher. S'il n'y avait pas de toucher, il n'y aurait pas de vie végétative. Et l'odorat, qui est un autre toucher. L'odorat, le goût, la main. Vous avez trois touchés. Et tous les trois sont liés à l'aliment. Vous avez besoin de sentir pour manger. Ça, l'apéritif est d'ordre de l'odorat. Et c'est vrai. C'est éveiller l'appétit. Vous avez besoin. Oh, il y a aussi quelquefois la vision. Hein. Ça, c'est sûr. Quand c'est très mal présenté, ça vous coupe l'appétit. Tandis que quand c'est bien présenté, oh, un petit peu d'esthétisme là-dedans. Ça aide. Et c'est pas ça qui est indispensable. C'est l'odorat qui est indispensable. Et puis ensuite le goût. L'odorat et le goût se correspondent toujours. Dans la vie végétative, c'est très très net. Et le toucher est là pour être sûr. La dernière sécurité, la dernière certitude, c'est le toucher. Le toucher est le sens de la vie et de la vie végétative. Très fort. On a besoin de toucher. On a besoin de voir. De goûter. Un gosse goûte tout. Même les bouquins. Parce qu'une grande personne regarde un livre, il sait que c'est pas fait pour le manger. Les petits romans. Et les enfants, quand on leur donne un livre, sans faire attention, ils mangeront. Lentement. C'est évident, mais quand même. On dit que la vue libère du toucher. Oui, comme c'est très curieux. Hein. La connaissance nous libère de l'aliment. Est au service de l'aliment. Elle nous libère par la vue. La vue nous libère du toucher, nous libère de l'odorat, nous libère du goût. C'est le sens de l'horizon. Alors là, on comprend ce que c'est que la connaissance aussi. C'est par le point de vue de la vue. La vue nous donne le toucher et la vue donne les deux extrêmes de la connaissance sensible. Gustate et videte. Là, gustate, c'est un toucher intérieur. Et videte, goûter et voyez, comme Dieu est bon. Alors vous prenez les deux sens extrêmes pour essayer de comprendre la bonté de l'aliment. C'est pas la beauté de l'aliment qui prime, c'est la bonté. Et si la beauté est là, c'est pas désagréable. Mais vous donneriez quelque chose d'extraordinairement beau, mais qui est très désagréable au goût. Vous le jeteriez. Je me suis laissé tromper. Je suis un pâtissier. C'est merveilleux. Oh, la beauté. Ça ne correspond pas du tout à l'aspect esthétique. Et la beauté. Tandis que vous pourriez dire, ah, vous voyez, c'est pas beau, mais c'est bon, oh, vous allez voir, constatez, goûtez, alors fermez les yeux et puis vous goûtez. Donc, vous voyez, c'est très curieux, comment la connaissance va aider la vie végétative, l'aliment, et comment la connaissance est un autre monde, la nutrition. La croissance, la procréation a quelque chose de substantiel, comme la nutrition. C'est pour ça qu'Aristote met ces deux opérations toujours liées ensemble. Et la croissance est entre les deux. Il faut que l'animal soit parfait pour être source de vie. Un animal qui n'est pas parfait ne peut pas être source de vie. Il faut que la vie végétative soit et atteint une certaine perfection pour qu'elle soit source de vie. Donc, la vie végétative est fondamentale et la plus dépendante du monde physique. La connaissance sensible est dépendante du monde physique, mais elle s'en libère. À côté de la connaissance sensible, il y a tout l'aspect affectif des passions. Les passions, c'est l'affectivité sensible. Alors, saint Thomas a étudié beaucoup les passions pour mieux comprendre ce qu'est le mystère du Christ. Alors, les passions, n'oubliez jamais les 11 passions que nous donne Thomas d'Aquin. Les 11 passions. Parce que ça, c'est important à bien comprendre, le concupiscible et l'irascible. Le concupiscible est premier, génétiquement parlant. Le concupiscible est fondamental à toute notre vie passionnelle. L'irascible est au service du concupiscible. Et l'irascible dépasse le concupiscible. Et c'est pour ça que les passions de l'irascible sont de fait plus parfaites que les passions du concupiscible. J'efface mardi. Le concupiscible regarde le bien sensible. Le bien sensible suscite en moi un amour. La première passion, c'est l'amour. Et c'est très intéressant de voir que c'est là où saint Thomas, théologien, étudie ce que c'est que l'amour. Et Saint Thomas est une analyse, comme toujours, philosophique, donc objective. C'est en tant que le bien sensible est capable de déterminer cette puissance que je possède en moi, qui est le point de vue de la concupiscence, capable de recevoir cette puissance, capable de recevoir le bien sensible. Bien sensible. Ce bien sensible émeut la puissance, la détermine, l'amour. Ce bien sensible est absent. Il n'est pas immédiatement donné. Tout le désir. Vous voyez, le désir me montre le dépassement à l'égard de la vie végétative. Vous ne pouvez pas manger si l'aliment est prêt, est absent. Vous pouvez bénir la table, l'aliment étant absent, mais vous ne pouvez pas le manger. Parce que la bénédiction relève de votre vie spirituelle qui dépasse la présence. Tandis qu'au contraire, votre vie végétative est liée à la présence. S'il n'y a pas l'aliment, alors il y a toujours moins le pain, symboliquement, qui représente le reste. Et puis les carottes. Alors, c'est représente symboliquement le reste. Tandis, il faut que l'aliment soit présent pour pouvoir le manger. Vous ne pouvez pas manger un aliment absent. Vous pouvez le sentir. Hein. Quand vous sentez très tôt le matin dans une ville et vous passez devant les boulangeries, vous sentez le petit pain qu'on vient de cuire et vous prenez un petit déjeuner intentionnel. Et le matin, quand vous passez devant le pain, comme il est déjà cuit depuis déjà un certain temps, il ne vous donne pas la même intentionnalité pour l'odorat. Mais quand il vient d'être cuit, c'est extraordinaire. Et voyez bien que vous pouvez prendre un petit déjeuner intentionnel. Et vous comprenez ce que c'est que l'intentionnel. Parce que si on ne vous donne pas ensuite le petit pain cuit et que vous pouvez le manger, vous comprenez toute la différence qui existe entre la connaissance et le fait de manger. L'assimilation physique et l'assimilation intentionnelle. irascible. Et alors j'ai l'audace, l'espoir ou l'espérance. Dites l'espoir plus exactement. La crainte, le mal difficile, le mal pénible, la crainte, le désespoir. Colère. Vous avez 5